Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les Grandes Gueules du Sport avec ce matin Simon Dutin, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Merci de nous écouter en direct, toujours aussi nombreux, mais également en podcast. Nous avons évoqué le 15 de France, la magnifique victoire hier face à l'Angleterre. Est-ce que cette victoire efface le tournoi? C'était de notre débat à 9h30. Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast. On avait parlé de la révolution dans le tennis et de ce projet fou. Ça c'était à 10h ou encore du tirage au sort du Paris Saint-Germain. Bref, vous pouvez tranquillement aller réécouter tout ça cet après-midi. Dans quelques instants, faut-il être une tête d'affiche pour devenir porte-drapeau des Jeux Olympiques de Paris? Ce sera la seconde des GG. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Ce sera le premier débat caché dans l'histoire, dans la carrière de Julien Beneteau, un peu ému
et puis stressé surtout.
Mais oui, parce qu'à chaque fois, je devais en faire un, ouais, et puis l'actualité a fait que j'ai dû abandonner. Mais
Il est en train d'espérer qu'il y ait une grosse actualité là.
Ouais, ça va arriver.
Alors,
là, non,
franchement, normalement, on est tranquille. Par-ci, là, on apprend un truc, une dinguerie sur Mbappé, mais normalement, t'es tranquille, on va faire un débat caché. Et puis, 11h45, les GG contre-attaque. Vous avez vendu votre débat à 10h30. C'est à vous de voter, chers auditeurs, pour votre débat préféré. Pour l'instant, 11%, il est dernier, Fred Weiss avec la NBA de retour en France pour deux matchs avec Victor Wembanyama, quatrième. 18e, le choix des artistes au JO après la polémique Aya Nakamura, 18% pour toi et donc troisième, ma chère Sarah. Mais c'est pas terminé. Ouais. T'es dans le match, t'es fâché, je le sens.
Ouais, enfin mal barré quand même.
Le Real qui ne veut pas que les joueurs français aillent faire les Jeux Olympiques, 23%, deuxième place pour Simon Dutin. Allez, Simon, s'accroche.
Oui, on s'accroche, on va remonter ce tour de. Oui, oui.
48% pour Julien Beneteau, les parents irrespectueux. Anecdote personnelle survenue ce week-end.
Parents et éducateurs surtout.
Irrespectueux envers l'arbitrage notamment.
Dans le football,
tu as un coup de gueule à passer, 48%. À 47, 24% pour Simon. C'est en train de bouger.
Bien sûr, ça monte.
Ça peut être ma première aussi. Ma première victoire.
Ce serait une émission exceptionnelle
que des premières.
Bien sûr. Ce week-end, dans les Grandes Gueules du Sport, un très beau cadeau à vous faire gagner. Vous pouvez remporter votre maillot de rugby sport d'époque. Le tout premier maillot France 1910 de l'équipe de France de rugby.
Porté par Denis Charvet.
Celui avec lequel la France a joué. Non, Christophe Cessieux.
Ah, pardon.
Son premier match des tournois des 5 nations en 1910. Denis Charvet, évidemment, n'était pas né, mais Christophe Cessieux, oui. Pour remporter votre maillot sport d'époque, vous envoyez bleu au 732-16, bleu au 732-16. Le grand gagnant sera avec nous en fin d'émission. Allez, pour débuter cette nouvelle heure, une citation de Guy Bedos qui a dit un jour: si j'avais un drapeau, mon emblème serait le bras d'honneur.
RMC, les Grandes Gueules du Sport, passe la seconde.
Drapeau noir. Drapeau rouge. Drapeau V.
La France, messieurs, dames. La France est là, dans l'arène, ça y est, du stade national olympique de Tokyo.
Et bleu, blanc, rouge, bleu à gauche, blanc au milieu. Rouge à droite.
Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la tempête.
On le voit bien, le drapeau bleu-blanc-rouge, même s'il est en train de se désagréger, parce que la délégation française est très dissipée.
Le drapeau, je vais retourner, c'est bien le signal de regroupement. Non,
l'ambiance, elle est hyper festive. Franchement, Clarisse et Samir, ils mettent l'ambiance. En fait, pour tout vous dire, on met tellement l'ambiance qu'on est tous trempés.
Est-ce qu'on répète, par exemple, comment porter le drapeau?
Ouais, ce qui est très important, c'est surtout mettre toujours le pied gauche devant le pied droit. Et en fait, moi, ce qu'un conseil que je vous dirais, c'est de déjà vous entraîner dans votre jardin avec un râteau.
Eh oui, il y a eu le planté de bâton, il y a désormais le porté de drapeau. Qui seront les deux porte-drapeaux de la délégation tricolore aux Jeux Olympiques de Paris? C'est l'une des inconnues à 132 jours de la cérémonie d'ouverture. Cette semaine, le CNOSF a dévoilé les nouvelles conditions de sélection des futurs porte-drapeaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Beaucoup de critères qui éliminent d'office plusieurs athlètes et non des moindres, les stars Dupont, Mbappé, s'il l'est fait évidemment, Wembanyama, Rinner ou autres Agbenienou sont d'ores et déjà hors course. La musique qui fout les jetons est cette question. Faut-il être une tête d'affiche pour devenir porte-drapeau? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui, un minimum.
Julien Beneteau.
Oui, un minimum.
Attention, si j'entends encore une fois cette réponse, ça va gueuler. Hein. Sarah Pitkowski.
Il ne peut pas en être autrement.
Ah. Oh là là, quelle sémantique.
Simon Dutin.
Allez, ben non, du coup. Non, non, non.
Simon, tu seras récompensé pour cette
réponse. Je sais, c'est pour ça que j'ai choisi le nom.
Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, spécialiste des Jeux Olympiques, Morgane Maury. Bonjour Morgane.
Bonjour à tous.
Salut Morgane.
Salut Morgane.
Quels sont justement ces critères?
Alors pour le poste suprême, celui de capitaine au pluriel du paquebot équipe de France, quel sera le couple drapeau français en main qui guidera les Bleus à la proue d'une péniche le 26 juillet sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture? Les règles ont changé. Elles seront les mêmes pour les porte-drapeaux des Jeux Olympiques et Paralympiques. On fait le point avec David Lapartien, le président du Comité National Olympique et Sportif Français.
Les critères, c'est d'abord d'avoir déjà fait les Jeux Olympiques parce que, quelque part, le porte-drapeau, c'est un peu le capitaine de l'équipe. Deuxième élément, c'est de ne pas avoir déjà été porte-drapeau. Et puis, il y aura une grande nouveauté. C'est la première fois de l'histoire que l'intégralité des athlètes vont voter. Et c'est ça le message aussi fort.
On récapitule. Avoir déjà participé au JO, une règle qui exclut, par exemple, Victor Wembanyama, Antoine Dupont ou encore Kylian Mbappé. Ils n'ont jamais concouru lors de la messe olympique. En deux, ne pas avoir été porte-drapeau. C'est cuit pour Teddy Riner, Clarisse Agbenienou ou Samir Ait Said qui ont déjà eu cet honneur. La judoka s'en est émue de ce changement de règle sur les réseaux sociaux. Et enfin, le binôme choisi ne pourra pas appartenir à la même fédération. Autre critère, une éthique sportive blanc comme neige, David Lapartien.
Les principes sont clairs pour nous, c'est qu'on doit incarner les valeurs olympiques, respecter les valeurs olympiques. Les valeurs olympiques, elles sont claires en matière d'éthique, en matière de dopage. Après, le diable se niche toujours dans les détails. On souhaite bien sûr que les porte-drapeaux incarnent les valeurs olympiques et qu'on commence pas par une polémique sur les valeurs qui pourraient être véhiculées par tel ou tel porte-drapeau.
Alors comment comprendre cette déclaration? Pas de casier judiciaire, pas de cas de dopage. Est-ce que Nicolas Karabatic, par exemple, condamné dans une affaire de paris sportifs, pourrait brandir le drapeau? Pas sûr. Alors comment ça marche? Fini le format avec 59 athlètes grands électeurs qui ont voté avant Tokyo 2020. Tous les sportifs sélectionnés devront mettre leur bulletin dans l'urne. Donc niveau légitimité, les heureux élus ne pourront pas rêver mieux. Les champions qui entrent dans les critères doivent d'abord faire une démarche auprès de leur fédération. Chaque sport retiendra un homme et une femme avant le 31 mai 2024. Place ensuite au vote début juillet. Résultat, quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Alors quelques exemples de couples qui sont possibles. Florent Manaud, doule nageur avec Estelle Mosley, la boxeuse, Pauline Ferrand-Prévot, la vététiste avec Kevin Mayer, Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque avec Nicolas Batum, Sofia Noumia, le boxeur et la judoka Romain Dico, ou encore Renaud Lavilloni et Wendy Renard, la footballeuse. À vos marques près, la campagne électorale peut commencer.
Merci beaucoup Morgane Maury pour ces précisions et ces nouvelles conditions, ces nouveaux critères pour devenir porte-drapeau. Notre débat, faut-il être une tête d'affiche pour devenir porte-drapeau? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Oui, Fred Weiss.
Ben oui, évidemment, parce que c'est ce qu'on va voir de notre pays en premier, et c'est notre représentant. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous joué à ce jeu. On regarde le début des Jeux Olympiques et on regarde dans chaque pays qui porte le drapeau, parce qu'on veut le reconnaître. On se dit, oh ouah, c'est lui, ou ouah, c'est elle, c'est génial.
Ouais. Et après, on se dit quoi d'ailleurs? Une fois qu'on a dit ça, c'est où est-ce qu'on va? Quel incident? Quelles conséquences?
Okay.
On dit oui, donc, génial. Non mais formidable. Non mais ouais, et après,
parce que c'est après, formidable, oui, parce que c'est une image qu'on est en train de véhiculer. Parce que c'est important de montrer au monde nos athlètes, d'être super impressionnant, de montrer de bomber le torse. Notre capitaine doit être quelqu'un qui est reconnu dans le monde entier, quelqu'un qu'on n'a pas du mal à identifier.
Et encore
si on
plus
met n'importe
cette,
qui, mais... et encore plus quand c'est dans ton pays.
Mais avec tout le respect que j'ai pour lui, Samir Ait Said, il a impressionné l'univers du sport. Tout le monde,
c'est moi qui choisis. Wow. Est-ce que c'est moi qui choisis? Non, mais moi, je pense que c'est mieux comme ça, parce que dans tous les pays, c'est ce qu'ils font. Dans tous les pays, tu veux dire qu'ils se trompent, alors. C'est-à-dire que, heureusement,
ben, regarde, justement, je me suis un peu regardé. Regarde la Ligue des porte-drapeaux de la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas un sportif. Tu tends le micro aux gens sur le trottoir, dans la rue, là, à Paris, ce matin. Il n'y a pas un sportif dans leur liste que les gens connaissent en France.
Pourtant, ça les a. Andy Murray à Rio.
Ouais, c'était d'accord.
Oui, pour moi, c'est un symbole fort, et pour les athlètes, c'est hyper fort d'avoir quelqu'un qui les représente, qui est médiatique, parce que ça fait parler encore plus des Jeux, et ça donne une image performante d'un pays.
Moi, je suis nostalgique de Jean-François Lamour en 92, bien de sûr. Pérec en 96, de David Douillet en 2000, de Richardson en 2004, et je peux continuer, Tony Estanguet, Laura Flessière, Teddy Riner. Enfin, ces gens-là sont quoi? ils sont médaillés, ils sont inspirants, c'est la bien définition sûr. Même d'un porte-drapeau. Exactement. Ils doivent mentorer les jeunes. Et quand tu as fait les Jeux, soit tu as fait les Jeux, soit tu as été médaillé, tu sais ce que ça représente. Donc je ne vois pas comment ça en peut être. Ça, ça peut en être autrement.
Surtout quand tu es voté par les athlètes. Non, c'est-à-dire que tu les représentes encore plus, et bien sûr, alors, des gens inspirants.
Le vote des athlètes, il y en a une grande partie qui ne sont même pas encore sélectionnés. On marche sur la tête, en fait. On met des critères qu'on ne peut pas...
Ouais, mais je trouve que l'idée est bonne.
Difficilement applicable, on est d'accord.
Mais l'idée est géniale.
De mettre autant de critères, autant définis, mais il y a quelques années, c'était beaucoup plus spontané que ça. Ça tombait sous l'évidence quand les noms que je vous donne là, on sait tous qui ils sont. Je ne comprends pas pourquoi on rend compliqué quelque chose qui pourrait être très simple.
Ce que tu veux dire, c'est que les critères empêchent plusieurs sportifs et ça te gêne.
Mais oui, ça me gêne. Évidemment que ça me gêne.
Moi, si tu as un casier judiciaire, ça me dérange pas qu'il ne représente pas la France, par exemple.
Tous les critères, évidemment, pas un athlète qui a été pris pour dopage, et évidemment un athlète qui n'a pas de casier judiciaire.
Et quelqu'un qui l'a déjà fait, moi ça me dérange aussi, parce que ça doit tourner un petit peu, c'est une image qui est très importante pour...
Ça dépend parce que effectivement le porte-drapeau prend de l'énergie et ça dépend quand se trouve ta compétition. Il y a quand même des petites choses qui sont ajustées par rapport à un planning. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne fermerai pas sur le fait de dire il a déjà eu donc il ne peut plus l'être, parce qu'il faut quand même se donner la souplesse par rapport au calendrier des compétitions.
Je rappelle justement qu'un porte-drapeau doit aller voir ses petits camarades, les autres compétitions, et c'est sûr que si tu va évoluer dans ta compétition en deuxième semaine, la première, tu vas bouffer de l'énergie à aller voir...
Il y a des obligations derrière un
bord. Il faut savoir, le porte-drapeau, c'est par rapport à l'image que tu veux envoyer au reste du monde, ou alors c'est par rapport au travail qu'il doit aller faire dans les pioles du village olympique en disant, vas-y mon coco, je suis avec toi.
Tu cherches la petite, c'est juste les deux,
tu peux faire deux choses.
Je m'explique, j'en ai un peu ras-le-bol du narratif qu'on nous vend depuis 30 ans et qui est complètement caduque sur l'universalité des jeux, la beauté du message. Tu sais, l'esprit olympique, faut arrêter avec ces bêtises. Je me mets à la place des athlètes qui travaillent, qui bossent toute l'année, dont on parle jamais hors des années Jeux Olympiques, et qui se diraient, Wembanyama, il a joué 3 matchs en NBA, ou Dupont, il a fait 3 matchs avec le rugby à 7, et c'est ces mecs-là qui vont...
Mais donc ils vont pas le faire, vu qu'il y a des
mecs qui l'ont interdit, justement. Non, mais attends, la force de l'émetteur, le monde entier, pour un truc le monde entier les connaît, en fait. Et Kylian Mbappé, s'il est pris, il va porter le drapeau.
Mais non,
porte-drapeau
des Jeux Olympiques. Parce qu'il y a des règles établies pour que ça soit possible, Simon, de défendre une théorie qui n'existe
justement,
pas. Non, je comprends pas.
Justement, on est en train de remettre en question, là, autour de cette table, les critères d'attribution ou de désignation.
Je pense qu'ils sont très bons, ces critères.
Clarisse Agbenienou, elle s'est quand même offusquée du fait qu'elle pouvait pas être porte-drapeau une deuxième fois. Ouais. Elle l'a déjà été une fois, ça ne lui suffit pas. Plutôt que d'être honorée et de dire, moi je vais m'impliquer un peu dans le processus de désignation, ou alors, en tout cas, j'apporterai tout mon soutien si elle veut veulent des conseils. Machin. Non, on en est à râler, à faire la fine bouche. Alors, en disant, moi je peux pas y être une deuxième fois.
Précision justement sur ce dossier, parce que je savais que la discussion allait venir là-dessus, et Julien, je te donnerai la parole. Clarisse Agbenienou a donc regretté ces nouveaux critères mis en place. Voici ce qu'elle a dit sur ses réseaux sociaux. Exceptionnel, ce sondage tombe à pic, parce qu'il y a eu un sondage en début de semaine où elle était classée dans les 5 premiers avec 8% parmi les Français pour être porte-drapeau. Il y a les Français et les chiffres qui expriment une certaine volonté, et de l'autre côté des personnes qui œuvrent en backstage, donc en coulisses, pour imposer des conditions discriminantes pour désigner les porte-drapeaux. Elle s'est justifiée sur cette sortie, parce que David Lapartien lui a répondu. Bien sûr, j'entends qu'il faut que d'autres personnes soient porte-drapeaux, et ils veulent vivre ce moment magique. Je voulais me représenter, parce que ça n'a pas été facile au JO Tokyo. On a fait une cérémonie d'ouverture en masque, sans public. Ça reste donc une chose que j'ai faite à moitié. Je ressens un petit goût d'inachevé. Voici ce qu'elle dit, et elle poursuit en disant, c'est pour cela que pour moi ça ne donne pas le droit de nous écarter en créant de nouvelles règles. Vous savez, pour pouvoir prétendre à être porte-drapeau, c'est déjà assez complexe, aussi complexe qu'un concours de Miss France. Fin de citation.
En fait, la règle ne lui convient pas, donc il faut changer la règle, quoi.
Voilà.
Clarisse, c'est vraiment le principe de base d'une athlète qui comprendrait aux Jeux Olympiques. Je veux tout pour moi, je veux toute la lumière, je veux recommencer, je veux le refaire. C'est exactement l'inverse. Même si Simon est contre ça, moi je trouve que ces règles sont parfaites, elles nous satisfont.
Mais je trouve que ces règles, moi, sont très bien,
donc je suis d'accord avec Simon, et je ne comprends pas qu'on puisse ne pas se satisfaire de ça. C'est important de changer, de mettre des athlètes en lumière qu'on voit pas tout le temps, mais quand même des athlètes qui sont connus et reconnus dans le monde. Je pense que c'est important, ou au moins dans des disciplines qui amènent des médailles.
Oui, bien sûr. Moi, Julien. Je pense qu'il y a certains critères qui sont bons. Je pense qu'on a assez de sportifs qui rayonnent, qui ont rayonné aux Jeux Olympiques dans le passé et qui vont rayonner pour les mettre porte-drapeau sans qu'ils l'aient déjà été. Donc, ce principe de turnover, entre guillemets, me convient très bien. Le fait qu'il faut avoir déjà fait les Jeux Olympiques pour avoir une expérience et apporter une légitimité, ça me parle et je pense que c'est une bonne chose pour la délégation olympique française. Sur l'exemplarité au niveau du dopage, évidemment, au niveau du casier judiciaire, entre guillemets, même si c'est à demi-mot.
C'est plus qu'à demi-mot. Hein.
Bah, attendez, ouais,
c'est
clair, quand même. Oui, mais par exemple, Renaud Lavillenie, il peut prétendre à être porte-drapeau quand même. C'est quand même une carrière énorme, un record du monde. Enfin, c'est une grande personnalité dans notre sport.
Ouais,
Renaud Lavillenie, il a eu un problème. Il a été impliqué dans un accident.
Ouais. Ouais, c'est
non mais
c'est vrai que c'est compliqué parce que alors est-ce que
tu peux pas aller au cas par cas, c'est un peu trop complexe. Tu prends une décision, tu dis OK, ouais. T'as un casier. Alors oui, peut-être que Lavillenie va en pâtir, mais c'est comme ça. À un moment, il faut
que tu aies une règle. Tu peux pas faire tu fais pas des règles avec des exceptions, il faut que ça soit général.
C'est exactement ça.
Quitte à se priver de certains candidats magnifiques, mais il y en aura d'autres. On a assez.
Je vous ai listé. On est à peu près tous d'accord que ces gens ont représenté et on ne remet pas en cause. Ils l'ont été, vous me direz donc. Mais on ne s'offusque pas de leur désignation. Et pourtant, on n'avait pas mis toutes ces règles aussi strictes. C'était des choses qui tombaient sous l'évidence. Oui, mais c'est ça qui me gêne. Règles, c'est qu'on est obligé de mettre des règles pour tout.
Ah, elles n'étaient peut-être pas écrites. Mais elles étaient morales, peut-être.
Moi, je trouve que les règles morales.
Je trouve que c'est plus lisse, c'est plus transparent. Justement, ça permet de savoir ce qu'il y en a exactement.
Sarah, j'ai envie de répondre en te disant, par une question, mais peut-être une question avec l'œil coquin. Est-ce que le COJO, le CNOSF, ils ont pas un peu peur de leur ombre? C'est-à-dire qu'ils veulent que ce soit reproché, que ce soit
clairement. Ils ont peur de polémiques parce qu'aujourd'hui on fait des polémiques pour un oui et pour un non.
Dans ce monde.
Oui, force. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On érige des règles pour se protéger parce qu'aujourd'hui tout est sujet à polémique, tout est sujet à controverse.
Donc ça c'est compliqué.
Est-ce que quelque part, je vous
et ça a changé par rapport à 92.
Je vous parlais d'un sondage. Qui a été publié en début de semaine. Les cinq premiers, ou en tout cas les trois premiers, j'ai Teddy Riner qui arrive en tête avec 27%. Donc Teddy Riner, c'est pas possible parce qu'il a déjà été pour drapeau. Kylian Mbappé en 2 avec 19%. Et Antoine Dupont en 3 avec 16%. Okay, ces trois-là, choisis par les Français selon un sondage, ne peuvent pas être éligibles. Est-ce que justement, en mettant ces critères, le CNOSF ne voulait pas que on vote pour Kylian Mbappé ou Antoine Dupont, parce qu'il y aurait une polémique?
Et bien sûr, mais c'est aussi le problème que quand de faire des sondages pour tout et n'importe quoi. Et que ceux qui sont à l'intérieur, je pense que de donner le vote aux athlètes,
oui, c'est juste.
C'est juste, et les athlètes olympiques ne vont pas voter pour Kylian Mbappé.
Bien sûr que non, parce que
ça n'a rien de personnel. Et ils ne veulent pas que Mbappé soit le dernier allumeur de la flamme pour la cérémonie d'ouverture non plus, parce que ça représente pas l'Olympisme.
Il a déjà tellement d'images, tellement d'intimité, il faut mettre d'autres athlètes.
Donc on n'a pas besoin de donner toutes ces règles. Laissons le choix aux athlètes et en leur aimant conscience, ils vont choisir la bonne personne.
Mettons des pare-feux pour éviter les problèmes et après laissons les athlètes voter.
Ok, Morgane nous disait il y a quelques instants que les fédérations allaient désigner deux noms, un homme, une femme. Sachez que la Fédération Française d'Athlétisme a déjà retenu un nom, c'est Mélina Robert-Michon qui va faire ses derniers Jeux Olympiques, la championne de disque.
Une star, elle est connue à New York, tu parles de Mélina Robert-Michon, tous les gens savent de qui tu parles hein.
Mais en même temps, Dupont, mis à part en Europe, personne ne le connaît non plus. Hein.
Non, mais je plaisante parce que moi, j'aimerais beaucoup que Mélina Robert-Michon soit porte-drapeau.
En tout cas, la Fédération française d'athlétisme devrait nommer Mélina Robert-Michon pour les femmes. Et pour les hommes, on s'orienterait vers Kevin Mayer, pardonnez-moi, le décathlonien, mais rien n'est fait pour l'instant. Voilà les dernières informations que je peux vous livrer.
Kevin Mayer, une grosse star quand même. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est quand même une vraie grosse star quand même, connue dans le monde entier.
Alors il est 11h25 et le moment est très important pour cette désignation des porte-drapeaux. Je vais vous demander deux noms. Un homme, une femme. pour être, selon vous, selon votre sensibilité, votre cœur, porte-drapeau des Jeux Olympiques? Un homme, une femme. Fred Weiss.
Un homme, Nicolas Batum. Parce que je pense qu'il le mérite, parce que il a déjà fait une Olympiade, parce qu'il a quelque chose plus long, un palmarès long comme le bras. C'est quelque...
Ok, tu vas pas nous vendre, t'étais pas en campagne politique. Non,
okay,
là.
Okay. Et Romain Dico alors?
Et Romain Dico, oui. Ça fait plaisir à Clarisse, c'est
voilà,
ça, c'est vraiment coquin.
C'est un peu pour ça que je trouve que c'est bien.
T'es vraiment
c'est,
pas sympa.
Elle a souffert, on y a eu des messages racistes, grossophobes et dans tous les sens sur elle. Ça serait bien fait pour leur tronche de qu'elle y soit.
Ok, j'ai mes deux noms. Simon Dutin.
Florent Manodou et Mélina Bob-Michon pour les JO et Élodie Laurendi et Arnaud Assoumani pour les Paralympiques.
Merci Dali, mon cher Simon.
Fait l'exercice jusqu'au bout.
Sarah Pitkowski, tes deux noms.
Mélanie Dos Santos et Léon Marchand.
Ah, carrément Léon Marchand.
Oui, moi je suis pas pour ceux qui n'ont pas encore participé aux Jeux Olympiques dans ce critère-là. Possiblement des gens qui sont aussi attendus pour avoir des médailles.
Il voilà. A fait les Jeux à Tokyo.
Ah oui,
non,
de Léon Marchand. Oui.
Donc finalement, c'est pour la
éligible.
Oui,
Julien Beneteau. Gaël Monfils.
Estanguet, Flessel. Ah non, ça c'était pas vraiment.
Non. Oh, il n'a pas les noms.
Non, Léon Marchand, je suis assez d'accord. Et chez les filles, Mélanie Robert Michon. C'est un mix.
Voilà.
C'est ça le débat caché.
On Mélanie quand même, hein. Mélanie Robert Michon.
Ou Mélina.
Mélina, pardon.
Mais on nommera sa copine, sa grande copine Mélanie. Merci beaucoup, Morgane Maury, d'avoir été avec nous. Il est 11h27, non. Rassure-toi. Oh, alors est-ce que vous savez que moi j'adore Dja-Dja?
Dja-Dja,
c'est parce que c'est la vitalité, c'est les jeunes. Oh, Dja-Dja, j'adore ça, je trouve que c'est génial. Oh, Dja-Dja, oui, Dja-Dja. Et puis j'aime bien d'autres chansons que Dja-Dja. Bref.
Tu bouges, c'est merveilleux.
C'est pas bon parce que c'est une vanne de rédac et vous m'avez mis Dja-Dja en régie, vous saviez que j'allais déraper. Voilà, sur la ministre en plus, franchement c'est pas beau. Si ça me coûte mon poste, bah ça me coûte mon poste. Le débat caché dans quelques instants. Je te l'ai promis, tu l'auras. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Restez bien avec nous dans 10 minutes. Les GG contre-attaque, vous avez proposé tous les quatre un débat. Et pour l'instant, il est largement en tête, Julien Beneteau, sur les parents, les éducateurs irrespectueux. Retour d'expérience, c'était ce week-end. T'as un petit coup de gueule et tu vas nous raconter à passer. En tout cas, t'es bien parti pour l'emporter. Mais vu que je suis animateur et que c'est dans mon contrat, il y a énormément de suspense. Vous pouvez encore voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Allez, tout de suite, et c'est une première pour Julien Beneteau, le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Vous ne savez rien, Julien ne sait rien, comme dirait Christian Clavier. Je suis dans le chart, si vous avez la référence. Le guet-apens du jour. C'est ça.
Attention, il passe la vitesse supérieure, Léon Marchand. On n'a plus rien de peut lui résister aux Français. Léon Marchand qui est en tête avec 2 secondes et 77 centièmes d'avance sur le record du monde. Léon Marchand va décrocher le titre mondial. Champion du monde, Léon Marchand, record du monde. Léon Marchand bat le record du monde.
Le record du monde de Michael Phelps, un exploit monumental, c'était l'été dernier au championnat du monde, Léon Marchand décrochait 3 titres mondiaux. Mais ce n'est pas sur ça que je vais vous interroger. La pépite de la natation française était à notre micro, en fin de semaine au micro de Julien Richard. Et vous le savez, il pourrait devenir la star des Jeux Olympiques. Et vous savez quoi? Bah, il se prépare à ça.
Oui, ça, je me prépare mentalement et physiquement pour ça. Je l'ai su depuis que je pense j'ai battu le record de Michael. Je pense que tout de suite dans ma tête, je me suis dit bon, les Jeux de Paris, ça va être différent que comme je l'avais imaginé. Donc oui, forcément, je me prépare tous les jours. J'ai mon prépa mental. On prépare sur l'attente. On prépare sur tout ce qui va être autour de moi justement pendant ces 2 semaines qui vont être assez intenses. Mais c'est un nouveau challenge et puis c'est une chance surtout. Je pense que c'est vraiment une chance d'être... là, j'ai 21 ans, j'arrive à mon pic, j'ai envie de dire, presque dans mon sport. Et les Jeux sont à la maison, donc quoi demander de plus, quoi. Je vais pas me plaindre, je vais me préparer au maximum et je vais profiter quand je serai là-bas.
Il se prépare à devenir la star des Jeux Olympiques. Notre débat, le débat caché. Peut-on vraiment se préparer à devenir une légende? Est-ce qu'on se prépare à ça? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Vous avez 2 heures et une copie double. Hein. Simon Dutin.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Oui.
Tout repose sur toi, Julia Beneteau.
Désolé, mais oui, je pense que oui.
On peut se préparer à devenir une légende. Alors là, j'attends vos arguments, Fred Weiss.
Ben, les arguments sont simples, parce qu'il y a d'autres légendes qui sont préparées. Quand tu vois un Mbappé, quand tu vois un Wembanyama, ils savaient que ça allait devenir des légendes, ils savaient qu'ils allaient faire des choses extraordinaires. Quand tu écoutes le discours de ces jeunes garçons, tu sais que déjà, ils ont des prédispositions, parce que n'importe qui n'est pas capable d'assumer ce genre de choses. Mais à partir du moment où tu as des prédispositions, que tu travailles avec un préparateur mental, que tu commences à optimiser les choses, oui, il y a le côté sportif, mais c'est pas le seul côté qu'il faut travailler. Et je pense qu'au contraire, se préparer, c'est la meilleure solution pour éviter de se tromper et de perdre.
Julien.
Lui, il se prépare à plusieurs titres. Dans sa discipline, dans la natation, il y a Phelps qui a fait un truc exceptionnel à Pékin en battant le record.
Michael, il a dit. Quand il dit Michael, tu sens voilà, que le mec est bien.
En battant, il avait annoncé qu'il voulait battre le record de nombre de médailles d'or sur une Olympiade de Mark Spitz. Il l'a fait. Donc, il s'est préparé à la fois physiquement et mentalement.
Non, mais tu te prépares et sportivement. Il s'est préparé sportivement. Mais là, tu te prépares.
Il s'est préparé à
devenir. C'est autre chose.
Il s'est préparé
à devenir une icône.
Phelps, il s'est préparé. Il savait qu'en faisant ça sportivement, il allait devenir l'icône des Jeux Olympiques.
Mais c'est la conséquence. Ça, j'entends.
Mais ça se prépare.
Mais comment?
Il l'anticipe. En étant déjà prêt sportivement et marchant, pourquoi il dit qu'il se prépare? Phelps, il l'a fait avec Bob Bowman et c'est son entraîneur. Il se prépare. Donc il sait. En plus, il le dit. J'arrive à mon pic. Le programme des Jeux a été changé pour qu'il puisse faire une épreuve de plus, pour qu'il ait une médaille de plus. Il dit qu'il a 21 ans, que les Jeux sont à la maison, etc. Il se prépare à tout ça sportivement pour avoir la réussite qu'il attend sportivement. Et il sait ce qui va en découler derrière.
Oui, mais ça qui s'attend à devenir la star s'il arrive à réaliser tout ça, et c'est ce qu'on lui souhaite. Ça, on entend. Mais comment, pour le commun des mortels, alors vous allez me dire justement, c'est pas le commun des mortels, mais pour tous les auditeurs qui nous écoutent, comment on se prépare? Vraiment, avec des mots, comment on se prépare à devenir une légende?
En fait, c'est particulier en plus dans un sport où il y a un chrono. C'est-à-dire qu'il vient de battre un chrono, donc il sait qu'il est capable de le faire. Donc c'est pas comme si t'es dans un sport d'équipe où effectivement la légende, elle va pas dépendre que de toi, elle va dépendre de ton équipe et de ton adversaire. Lui, son adversaire, c'est le chrono. Donc je pense que c'est encore plus facile, tout est relatif, mais je pense que dans la construction mentale, c'est plus évident de construire, de rentrer dans les chronomètres de légende à partir du moment où ton adversaire, c'est un chrono et ça dépend que de toi. Et il se prépare à ça et il l'a déjà fait. Donc en fait, moi je suis pas choquée.
Je suis pas choquée non plus. Je veux juste savoir comment. S'il se lève le matin, comment tu te prépares à devenir une légende?
Il relativise, il rentre dans sa routine. C'est-à-dire qu'il a une routine très précise qui lui permet d'accéder au temps qu'il veut.
Et des mécanismes mentaux.
Vous me parlez de sport, moi je vous parle hors sport. Comment on se prépare à devenir une légende médiatique? Comment on prépare?
Ça, c'est plus facile. Hein.
Il fait du média training, il discute avec des gens justement qui ont cette expérience, qui lui communiquent l'expérience, comment gérer le fait que tout le monde va te poser des questions, etc. Important pour lui avant d'être une légende médiatique, c'est une légende sportive.
Mais bien sûr, mais lui, il le dit, je me prépare à cet engouement, je me prépare à cette vague. Comment on se prépare à cette vague? Vous ne répondez pas à ma question.
En te retournant, déjà, tu mets un coup dans le rétroviseur, tu regardes un petit peu l'histoire du sport, l'environnement médiatique autour des jeunes champions a changé. Je pense qu'il y a eu plusieurs étages de la fusée. Je pense, je ne sais pas, mais comme Pelé à 18 ans, il a ébloui le monde entier, il a prouvé qu'à 18 ans, on pouvait être le meilleur joueur du monde. Il y avait Comaneci, la gymnaste, qui avait eu un 10 aux Jeux Olympiques. Elle avait 16 ans ou 15 ans. Bon, après, plus proche de nous, il y a eu des LeBron James ou Martina Hingis, tu vois, qui étaient programmés, qui ont confirmé. Je pense que désormais, tous ces exemples-là qui garnissent la glorieuse histoire du sport ont conditionné ces jeunes gens qui sont de mieux en mieux entourés de plus en plus tôt. Et le Marchand, on l'a suffisamment souligné, il bosse avec l'ancien coach de Phelps, qui est une des plus grandes légendes de l'histoire du sport, donc qui sait, je pense, le conditionner en lui, en le préparant à ce qui va arriver. Et puis voilà, désormais, lorsque tu bats tout le monde si jeune que ça, tu t'y prépares
pas, Jean-Christophe.
J'ai compris ce que vous essayez de me dire. Ça, ok. J'ai compris.
Mais tu l'entends pas.
Mais non, c'est ce que vous n'entendez pas, c'est moi je voudrais savoir, vous qui avez été des sportifs,
on n'a pas été des légendes. Hein.
Mais quand t'es plus jeune et que tu t'attends à tout casser, je veux dire, c'est le but de votre sport. Après, ça arrive ou pas. Mais comment tu te prépares vraiment mentalement 3 ou 4 mois avant à devenir une légende. Je ne parle pas de sport, je parle de comment on se matrique dans la tête.
La légende, comment dire, et le résultat découle.
Oui, mais il se prépare à ce que ça arrive. C'est le postulat. Il sait que ça devrait arriver. Si tout va bien, évidemment, il y a du sport avant, mais il sait que ça va arriver. Mais comment tu te prépares à
anticiper les choses?
Mais comment t'anticipes?
Moi, j'ai un exemple très précis. Regarde, tu te rappelles de cette pub de Zidane où il dit d'abord la jambe gauche, d'abord, tu vois? Et en fait, c'est exactement ça. Lui, il doit continuer à avoir sa routine pour justement que ça lui fasse pas péter les plombs. C'est-à-dire qu'en gros, il a sa routine d'entraînement, il a sa routine de média training, mais il ne déroge en rien.
Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que lui, ce qui s'est passé au Japon.
Je pense que Bob Bowman lui dit, tu sais que si tu gagnes 3-4 médailles d'or, et
c'est bien ça, les non-dits,
voilà.
J'aime bien.
Je pense, et il lui dit, voilà, tu vas rentrer dans une autre dimension. Il va y avoir de l'attente, il va y avoir un truc, voilà. Mais t'es prêt à ça. Enfin, en tout cas, on va te préparer à ça. Et il dit qu'il a un préparateur mental ou préparateur mental. Donc, je pense que c'est des choses qu'il anticipe, dont il parle avec ces gens-là, avec son entourage, en disant, voilà, j'ai 21 ans, je suis l'étendard de la natation française, tout le monde s'attend, il y aura peut-être Florent Manadou, tout le monde s'attend à ce que je gagne 3 ou 4 médailles d'or. Je vais tout faire pour. Et derrière, je sais ce qui va se passer. J'ai déjà signé avec LVMH.
Est-ce qu'il faut le mentaliser?
On en parle parce que c'est la compétition, le top du top, le très haut niveau. Mais ces jeunes gens, mais on parlait de Mbappé, de Wembanyama, de Léo Marchand. Ils ont commencé en interclub. Ils ont commencé quand ils avaient 5, 6, 7 ans. Et c'est des athlètes qui dominent depuis qu'ils ont commencé le sport.
Dans les
compétitions du dimanche, tu t'es l'attraction auprès des parents de tes concurrents. Je veux dire, t'es habitué à avoir l'attention sur toi.
Mais il y a aussi un autre point commun, c'est qu'ils créent un environnement de la performance, c'est-à-dire qu'ils s'entourent de professionnels de différents secteurs, qui fait qu'on crée des filtres. Et effectivement, il y a un moment, ils sont préparés à différents niveaux, et donc
leur chemin, il est comme ça, ils ne vont pas à côté. C'est pour ça que je parle de routine, et la routine, c'est hyper important dans ce cas de figure.
On parle des entraîneurs justement qui apportent énormément de coach mental. Ok. Est-ce que dans ces cas-là, et je l'ai déjà entendu parmi certains athlètes, est-ce qu'il faut visualiser la victoire? Est-ce qu'il faut se projeter dans la victoire et se projeter après la sortie de bassin?
Il n'y a pas une recette, en fait. Ça dépend de chaque sportif, parce que ça peut être un préparateur mental, ça peut être un psychiatre, ça peut être un psychologue, ça peut être de la PNL, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates. C'est-à-dire, la préparation mentale, c'est pas une recette que tu appliques chez tout le monde, parce que chaque être humain ou chaque sportif, il a un vécu différent. Et donc, en fait, il a besoin d'une méthode et peut-être d'un discours qui est différent. Donc en fait, ça se construit, c'est-à-dire qu'il ne se prépare pas depuis 4 mois. C'est ce que disait Simon, c'est que ces sportifs-là, ils sont déjà hors normes depuis
bien
tout sûr. Petit.
Moi j'aime bien le discours de Wembanyama par rapport à ça. Justement, lui disait, moi je m'en fous, je sais que je serai riche. Donc c'est pas le débat. Le débat, c'est justement comment je gère sportivement pour continuer à avancer, pour continuer à être le meilleur et pour ne pas complètement disjoncté. Et c'est pour ça que je parle de faire toujours la même chose, de répéter les choses et de ne pas dévier de son chemin. Et on voit que ces jeunes sportifs sont très intelligents, sont très bien structurés et que ça leur permet justement d'avancer sur leur chemin.
Et dans le cas, moi, de ces aliens, je pense que le plus important, c'est pas de se préparer à devenir une légende ou à gagner, c'est de se préparer à ne pas devenir une légende ou à ne pas gagner parce que, justement, tout le monde, depuis 15 ou 20 ans, te dit que tu seras le meilleur et que tu vas laisser une trace. Okay. Et ça arrive pas. Ça peut
mentaliser et préparer la défaite aussi.
Exactement.
Voilà, parfait les copains. Bilan de ce premier débat caché, un peu déçu, t'aimes bien.
C'est pas ton meilleur, mais j'écoute depuis longtemps l'émission, mais on peut que s'améliorer. Mais c'est intéressant.
Dire, c'est pas ton meilleur. C'est très bien vu.
On me l'a souvent dit en plus. Merci. Moi, mon bilan de ce débat caché, vous savez, c'est quoi?
C'est que t'es déçu, t'es frustré de nos réponses.
Pas du tout. Je trouvais qu'on faisait quand même avancer le Schmidt-Bick. Mon vrai bilan, c'est que moi, j'adore toujours Dja Dja.
Ah,
j'adore. Dja Dja, Dja Dja. J'aime bien Dja Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Fred Veil, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau, Simon Dutin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. À partir de midi, les paris RMC autour de Rennes, Marseille, notamment Montpellier, Paris Saint-Germain. On vous donnera toutes les meilleures cotes. Nous accueillons Gaëtan dans cette émission. Salut Gaëtan.
Salut les gars.
Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle?
Ouais, je crois que j'ai gagné le maillot connecteur.
Exactement, le maillot Sport des potes.
Denis Charvet, j'espère. Porté par Denis Charvet. Ah,
porté surtout par Christophe Cessieux, car évidemment, le talent n'a pas d'âge. 1910, ce maillot Sport d'époque, tu vas voir, il est absolument sublime, ce maillot de l'équipe de France de rugby. Et tu vas voir aussi, je le répète à chaque fois, il est extrêmement lourd. Est-ce que t'es costaud, Gaëtan ?
Ça va, je suis à l'honneur, donc ça va le faire.
Ah oui, oh bah c'est rien pour toi, 500 grammes sur le dos. Tu vas voir, ça c'est ralentit bon. Un chouï hein, quand même. Hein. Tu nous écoutes souvent ?
Ouais, tous les jours.
C'est qui ta grande ?
Toutes les semaines.
C'est qui ta grande ? Vas-y, dis-nous.
Un grand amateur du Moscato Show, en
fait. Ah oui, c'est une petite émission qui démarre, qui est sympa. 15h18h
du vendredi. J'étais venu vous voir samedi, mais ça s'est pas fait. J'étais à Lyon, et j'avais la place, mais ça s'est pas fait.
Ah bah oui, on était hier les GG du sport dans un café. Très bien reçu d'ailleurs au café du marché. Bon bah ce sera pour une prochaine fois, mon cher Gaëtan. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, merci de ta fidélité à RMC et bravo pour ce magnifique cadeau.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec Sport d'époque, la marque française Chic et Sport qui transmet l'histoire du sport à travers ses collections fabriquées localement. RMC, les GG contre-attaque.
Vous avez proposé 4 débats, c'était à 10h30 et nous avons le résultat final. Ça y est, les votes sont clos, 11% et les derniers pour la NBA de retour en France la saison prochaine avec 2 matchs de Victor Wembanyama. Tu t'es bien battu mais t'as jamais été dans le coup. En tout cas, Fred Weiss, bravo pour cette 4e place. Elle a pris des points pour son Jaja, son Aya Nakamura, la polémique, 20% pour toi. Sarah Pitkowski, 3e. Écoute, le podium, c'est pas si mal, finalement. 2e place pour Simon Dutin, 23%. Le Real qui ne veut pas envoyer les joueurs français aux Jeux Olympiques.
Runner-up, comme disent les anglo-saxons. Voilà, 2e, c'est mieux que 3e, c'est mieux que 4e.
On dit comme ça,
ouais.
Là-bas ?
Ouais, je confirme. J'ai été 10 fois runner-up sur 10. Ah,
oui.
Tant que je fais mieux que Fred, moi, tu sais, moi, ça me va.
Il est donc le grand vainqueur. 46% pour les parents et les éducateurs irrespectueux. C'est ton coup de gueule de la matinée. Nous t'écoutons. Julien Benneteau.
Oui, dans le milieu du football, dans le milieu amateur et notamment chez les jeunes, se répercutent des comportements qui sont complètement inadmissibles. J'en ai fait les frais hier sur un match de mon fils qui a à peine 9 ans, où je me suis permis de dire à l'éducateur, enfin, éducateur si on peut appeler ça comme ça, à l'entraîneur de l'équipe adverse, que c'était pas comme ça qu'on s'adressait à l'arbitre notamment. Et là, il faut savoir que dans ces catégories-là, les arbitres, c'est soit des papas, soit des gens qui viennent donner de leur temps comme ça. Et la manière dont on s'adresse à l'arbitre montre le respect qu'on peut avoir pour eux et la manière de leur parler au-delà des mots qui ont été outranciers et injurieux. Il y a eu aussi le comportement, un comportement physique un petit peu agressif. Et à partir du moment où on s'est permis, où je me suis permis de dire ça, tout de suite
à l'entraîneur,
le débat n'était plus sur est-ce que c'est normal de s'adresser comme ça et le devoir d'exemplarité qu'ils doivent avoir vis-à-vis des enfants de 9 ans, c'était pourquoi tu interviens, qu'est-ce que tu viens chercher ou quoi que ce soit.
Et en bref, fait, ils voulaient se battre, quoi.
Oui, voilà. Mmh. Et en fait, ce problème-là, pour moi, découle d'un problème majeur dans le football au plus haut niveau. Le football est le seul sport collectif où, quand l'arbitre siffle, il y a 5-6 joueurs autour de l'arbitre qui viennent discuter. Au rugby, c'est le capitaine. Au handball, il y a personne qui dit. Au basket, il y a des petites invectives, mais ça reste proportionnel. Le football, c'est le seul sport où quand il y a une touche, elle se joue à 10 mètres ou 20 mètres de là où le ballon est sorti. Au handball, on pose la balle par terre. En rugby, dès qu'on conteste une décision d'arbitre, il y a 10 mètres. Et on ne sait pas comment les joueurs s'adressent à l'arbitre. On ne sait pas comment l'arbitre parle aux joueurs aussi au plus haut niveau parce que la sonorisation n'est pas publique. Et en fait, les enfants, les amateurs regardent ce qui se passe au plus haut niveau. Et les entraîneurs, les présidents de clubs, les dirigeants, pareil, quand on parle d'une décision d'arbitre, je pense que ça a vraiment des répercussions sur en bas. Et pour moi, c'est vraiment un problème majeur et je trouve que rien n'est fait vraiment au plus haut niveau pour changer ces habitudes, ces mœurs, qui après donnent des situations dramatiques dans le football amateur, des bagarres et des comportements complètement inappropriés pour du football d'enfants, des U9, des U8, avec soit des parents, soit des pseudo-éducateurs qui ont des comportements
complètement irrespectueux et qui déplaçait vis-à-vis des arbitres, des adversaires ou des parents adverses. Et voilà, on entend chaque semaine, tiens, dans le football amateur, dans tel district, il y a eu ça comme problème. Tiens, il y a eu ça comme problème. Un arbitre s'est fait taper dessus. Il y a eu une bagarre entre joueurs, etc. Mais pour moi, le problème, il vient vraiment d'en haut. Et si les instances fédérales ou de ligue prennent pas le sujet à bras le corps, jamais ces problèmes dans le foot amateur, dans le football d'enfants ne seront réglés.
Et c'était un retour d'expérience, et c'est vrai que parfois c'est effrayant d'aller sur des matchs amateurs, et on pourrait se dire, quand ce sont des adultes, ce n'est pas à faire.
Là,
mais bon, parfois la nature humaine fait que, mais quand ce sont des éducateurs d'enfants, qui viennent agresser verbalement un arbitre, on se dit, mais bon, j'imagine la situation. Comment vous voulez réagir, les GG, à ça?
Mais on sait que malheureusement dans le foot il y a des dérives. Alors être arbitre, déjà, c'est pas une sinécure, hein, donc dans n'importe quel sport, c'est pas une sinécure, et c'est vraiment très compliqué, et c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de pression aussi.
Exactement.
Parce que les parents sont là pour essayer de motiver leurs enfants qui pourraient leur permettre de sortir de leur misère, bien etc. Et je sais pas comment endiguer ça parce que ça paraît trop complexe, parce qu'il y a trop d'argent potentiellement en jeu dans les années à venir, donc ça met la pression, donc les décisions de l'arbitre influent sur le job de la personne qui t'a parlé, mais sur les jeunes qui sont sur le terrain aussi, les parents sont derrière, mettent la pression, s'insultent entre eux. Je suis très inquiet pour le sport amateur en général, et c'est vrai que le football, malheureusement, comme c'est un sport de masse, stigmatise ces problèmes, mais je me dis que bientôt ça devrait arriver dans les autres sports aussi, hein.
Je pense pas, moi.
Ça rend les gens,
j'espère que non, mais franchement,
Le football particulièrement rend quand même les gens complètement fous, et il y a désormais en plus tous les parents qui voient leur fils être le futur Mbappé et entravé dans sa progression, tu vois, on les laisse pas suffisamment développer leur talent, que ce soit une erreur d'arbitrage ou un entraîneur qui met pas. Moi, j'ai mon père, un jour, il m'a dit tu te démerdes pour aller au foot, moi je fous plus un pied avec ces zinzins, parce qu'il y avait des parents qui se mettaient sur la tronche pour que leur fils soit titulaire le week-end prochain. On était en pupille ou en cadet, c'est-à-dire il y a rien à gagner. Et je pense qu'on rend pas assez hommage malgré tout aux arbitres du dimanche, les bénévoles, parce qu'il faut y aller, se lever sur ton temps libre, te faire bien souvent menacer, au moins intimidé par l'équipe qui reçoit.
Il y a une vraie crise de vocation par rapport à ça. Et c'est logique.
Tu te fais menacer une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai un copain qui arbitrait en U18 nationaux au Pays Basque un jour. Il a passé deux heures dans le vestiaire. Il a été raccompagné à sa bagnole par le président du club qui reçoit. Parce que tu peux faire une erreur en plus sur toi. Bien sûr. Voilà, t'es pas un arbitre pro, tu peux faire une erreur. Mais du coup, c'est ambiance de lynchage. Donc, il faut être très solide mentalement pour des arbitres qui sont pas des arbitres pros, qui ont pas l'habitude de faire ça, et sans qui tu pourrais pas jouer le dimanche partout en France.
C'est pour ça que les éducateurs doivent avoir un rôle de médiateur, surtout quand c'est des enfants. Ils sont entraîneurs, mais ils sont éducateurs, donc ils ne doivent pas pouvoir parler à l'arbitre de cette manière, de pouvoir intervenir auprès de l'arbitre de manière aussi invective, de respecter les décisions même s'il y a des erreurs, et de dire ok, c'est pas grave.
Je voudrais savoir l'incidence, par exemple, sur ton enfant. Je veux pas dévoiler de, mais par exemple, est-ce qu'il te parle des arbitres en disant, par exemple, à un enfant, quand il voit ça, il dit ouais, mais il a raison, l'arbitre il fait n'importe quoi.
Non, ils disent pas ça, mais par contre, à 9 ans, et moi je me bats avec mon fils, ils contestent les décisions d'arbitre.
Mais parce qu'en fait,
mais parce que ça, ils voient ça à la télé.
C'est du mimétisme.
Bien sûr.
Le mimétisme est forcément à une incidence, et le mimétisme de ce que tu vois sur tous les terrains, eh bien, ça a une incidence derrière ça. Mais entre le mimétisme, donc l'exemplarité du plus haut niveau, et les sanctions, en fait, c'est ces deux choses-là sur lesquelles il faudrait travailler. Cependant, je suis pas sûre qu'on puisse trouver la solution. Mais sans sanctions. Sans sanction et sans exemplarité au plus haut niveau, je ne vois pas comment on peut régler le problème.
En tout cas, merci Julien pour ce retour d'expérience et de nous avoir partagé ça.
Il suffit de raconter sa vie et on gagne.
Le mauvais joueur. Bon dimanche à Fred.
Bon dimanche à tous. Merci beaucoup les GG d'avoir été avec nous ce matin.
Salut.
Les grandes gueules du sport, ce sera samedi à 9h30, samedi prochain, évidemment. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. J'en profite pour saluer et remercier notre producteur Maxime Abolin et à la réalisation Alban Azaïs. Merci beaucoup à la régie. On se retrouve dans quelques instants, les paris RMC. Une belle journée de Ligue 1 aujourd'hui, à tout de suite.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.